Voilà, bienvenue à tous pour ce culte un peu spécial. Nous allons célébrer le baptême de Célia. Voilà, c'est une circonstance extrêmement réjouissante. Alors, on va regarder dans la Bible l'histoire d'un baptême qui m'a toujours réjoui. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 8. À partir du verset 26. Acte 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Et donc l'ange a précisé à Philippe, celle qui est déserte. Il y avait peut-être d'autres routes qui étaient moins désertes, je ne sais pas. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» « Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. « Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. » Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle, ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Là, après, il y a un verset qui n'est pas dans tous les manuscrits. On peut le lire quand même parce qu'il n'est pas faux. « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Alors ce Philippe, c'était l'un des sept hommes choisis pour résoudre un problème, le problème de la distribution d'une aide aux veuves de l'église de Jérusalem. On voit ça dans le chapitre précédent, enfin le chapitre 6. Philippe vient de prêcher Christ en Samarie. Donc cette province que je vous ai montrée, c'est celle qui est en violet là. Une province donc de Palestine au nord de la Judée. Le Seigneur a appuyé sa prédication par de nombreuses guérisons et par la délivrance de personnes sous l'influence de démons. Un grand nombre de Samaritains se sont convertis. Il vient donc de vivre une campagne d'évangélisation fructueuse, où il a parlé à des foules, et voici qu'un ange du Seigneur l'interpelle pour lui confier une autre mission, sans même lui préciser laquelle, en tout cas, Luc, l'auteur du livre des Actes, ne le rapporte pas. Curieusement, cet envoyé du Seigneur l'envoie sur la route qui va de Jérusalem à Gaza en précisant qu'elle est déserte. après des moments bénis, passés au milieu des foules samaritaines, il est envoyé sur une route déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Notons qu'il ne discute pas les ordres du Seigneur, alors qu'il aurait pu légitimement arguer qu'il lui restait encore beaucoup de travail à faire en Samarie. Pourquoi l'envoyer maintenant sur une route déserte? Et le Seigneur va lui donner la réponse. Il veut qu'il parle avec ce haut dignitaire éthiopien qui revient de Jérusalem. Le texte de Luc nous présente cet homme comme administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie, en quelque sorte, son ministre de l'économie et des finances. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il avait donc déjà la connaissance du Dieu des Juifs, qui est d'ailleurs le seul vrai Dieu. Cette connaissance lui avait probablement été apportée par des Juifs de la diaspora installés en Éthiopie. Il avait donc fait le voyage à Jérusalem pour adorer le Dieu des Juifs, pas une visite en passant à l'occasion d'une mission diplomatique auprès des autorités juives, mais spécialement pour rencontrer ce Dieu auquel il voulait apporter son hommage. Quand quelqu'un veut rencontrer Dieu, Dieu vient à sa rencontre, comme nous allons le voir. Installé dans son char, probablement un char allant assez lentement, vu le contexte de l'histoire, tiré probablement par des bœufs, il lisait à haute voix dans un rouleau du prophète Ésaïe. Probablement avait-il fait l'acquisition de ce rouleau à Jérusalem. Les rouleaux de l'Écriture sainte, recopiés à la main par les scribes, coûtaient très cher, mais lui avait certainement les moyens d'en acheter un. Le Saint-Esprit, qui avait envoyé Philippe sur cette route normalement peu fréquentée, lui intime de marcher à côté de ce char. Et là, Philippe entend le dignitaire éthiopien lire à haute voix un passage de son rouleau qui parlait du serviteur de l'Éternel. Alors Philippe se permet de poser la question à cet homme qu'il rencontrait pour la première fois. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Humainement parlant, on dirait « Quel culot de parler ainsi à un ministre ?» Mais la question est bien accueillie par le haut fonctionnaire. « Comment le pourrais-je si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» C'est beau de voir l'humilité de cet homme qui, en quelque sorte, reconnaît devant cet inconnu son ignorance. Et il invite Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Luc nous rapporte le passage que le haut fonctionnaire était en train de lire. Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimé. Dans nos Bibles, ce texte se trouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 7 et 8. Curieusement, le texte de Luc s'arrête au milieu du verset 8 qui continue ainsi « Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. » On peut comprendre l'embarras du haut fonctionnaire devant ce texte quelque peu énigmatique. Alors il pose humblement la question à Philippe, « Explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Et de fait, la solution se trouve dans les évangiles, qui n'étaient pas encore écrits. Alors bien sûr, Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Luc, l'auteur de ce qu'on vient de lire, résume l'enseignement de Philippe dans cette expression « la bonne nouvelle de Jésus ». Et on voit que cet enseignement, conduit par le Saint-Esprit, comme d'ailleurs toute cette histoire, a été suffisant pour conduire cet homme à la foi dans le Fils de Dieu. Il passe près d'un point d'eau et le haut fonctionnaire demande « qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Je vous pose la question aux jeunes qui sont ici, et qui peut-être n'ont pas fait cette démarche. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? L'annonce de la bonne nouvelle du Fils de Dieu mourant pour les péchés du monde et pour ceux du haut fonctionnaire a fait naître la foi dans le cœur de cet homme. Il était venu à Jérusalem pour adorer le Dieu des Juifs. Maintenant, il veut unir sa vie à celle de celui dont il a compris qu'il est son sauveur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit en Romains 6, versets 3 et suivants. C'est plutôt la diapositive suivante. Voilà. Oui, là, excusez-moi, sur cette image, une image que quelqu'un a représentée, le haut fonctionnaire éthiopien et Philippe dans l'eau. Et je voulais mettre la suivante, voilà. L'apôtre Paul écrit en Romains 6, versets 3 et suivants. Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Cette mort dont justement parlait le prophète Ésaïe dans le rouleau que l'Éthiopien lisait et dont Philippe venait de lui donner la clé. Paul continue. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, nous ne pouvons la mener que par la puissance glorieuse du Père, tout comme la résurrection de Jésus-Christ. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Cette mort semblable à la sienne est symbolisée par l'immersion dans l'eau. Cette résurrection semblable à la sienne est symbolisée par le fait de ressortir de l'eau, image d'une vie nouvelle. Alors le haut fonctionnaire donne l'ordre d'arrêter le char, Philippe et lui descendent tous deux dans l'eau et Philippe le baptise. À peine sorti de l'eau, le Saint-Esprit enlève Philippe pour l'envoyer évangéliser le territoire qui est connu de nos jours sous le nom de bande de Gaza. Il nous est dit que le haut fonctionnaire poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Dans cette histoire, nous avons un exemple de quasi-simultanéité du baptême du Saint-Esprit, dont Jésus a baptisé du haut du ciel le haut fonctionnaire, lorsque son cœur a reçu par la foi le pardon de ses péchés, suite à la prédication de Philippe, et le baptême d'eau administré par Philippe sur cette terre en signe visible du baptême de l'Esprit qui venait de se produire. Célia a vécu elle aussi dans son cœur le baptême du Saint-Esprit, comme elle va maintenant nous le raconter. Et à sa demande, et devant l'église locale réunie, je vais avoir le privilège de la baptiser dans l'eau en signe visible de ce qui s'est passé dans l'intimité de son cœur. Célia, tu as la parole.
Ok, bon, bonjour à tous. C'est pas trop mon truc de parler devant tout le monde, mais bon, on fait avec. Hein. Bon, désolée si je vous regarde pas trop du coup, parce que je suis pas trop à l'aise, voilà. Donc je suis heureuse de partager avec vous cet événement. Désolée que ça soit un peu limité en nombre de personnes. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes des privilégiés en quelque sorte. Bon, voilà, les choses sérieuses commencent. C'est le moment où je dois raconter un peu ma vie, alors allons-y. Alors au début, ça va étrangement ressembler au témoignage de Valentin. Donc je pense que c'est un peu normal du coup. Avec mes parents et mes frères, on a commencé à aller à l'église quand j'avais environ 6-7 ans, dans l'église de Béligna, près d'Oyonnax, pas loin du Jura. On n'était pas énormément, mais c'était chouette parce qu'il y avait plein de communautés différentes, dont la principale était cambodgienne. Pour les repas en commun, je peux vous dire qu'on était contents du coup. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'enfants, à part nous trois, les deux enfants du pasteur et une autre fratrie. On s'entendait bien, c'était cool. On a vraiment passé des bons moments dans cette église, et notamment pendant les week-ends d'église à Saint-Albin et à Joude, où c'était vachement drôle. Notre pasteur suisse-allemand manquait jamais une occasion de faire des petites blagues. Donc, c'était drôle. Ensuite, en 2012, on a déménagé pour se rapprocher du travail de mon père. Donc, on est venu s'installer dans la Bresse, limite avec la Dombe. Je me suis perdue là. Alors, on a commencé à chercher des églises dans le coin et on est tombé sous le charme de celle-ci pour son dynamisme, son accueil à l'époque pour le nombre de jeunes présents. Ça crée un peu. Donc voilà, je voulais vous partager avec vous deux événements qui m'ont marqué et où j'ai vraiment vu l'œuvre de Dieu. Donc le premier, je pense que vous êtes un peu tous au courant, c'était le 14 mars 2013. Patatras, c'était le drame. Boum, incendie de maison. Ça m'a fait tout bizarre parce que 5 jours auparavant, je fêtais mes 12 ans avec mes copines, donc une petite soirée de pyjama. Et c'était pas une période facile avec tous les changements de logement. D'abord dans une chambre d'hôte, puis un rikiki gîte et enfin une maison à relevant. Et aussi pas facile avec tout le stress que ça engendrait. De voir ses parents faire l'inventaire de tout ce qui a brûlé pour les assurances, de ne plus avoir son espace personnel parce qu'on était les uns sur les autres, d'avoir l'interdiction de s'apitoyer sur son sort ou d'avoir des baisses de notes en prenant comme excuse cet incendie. oui, ça c'était un moment, ouais, je vous avais compris. Mais heureusement que c'était que des choses matérielles et que même le hamster avait survécu, bon, au plus grand regret de papa. Oui, Dieu avait pris soin de protéger tous les animaux restés à l'intérieur de la maison pour éviter un surdrame, si on peut dire ça. Mais c'est dans les épreuves qu'on grandit et Dieu nous l'a bien montré. On est ressorti de cette épreuve plus soudé que jamais, plus mature et surtout très reconnaissant qu'il n'y ait eu aucune victime. On a aussi été très reconnaissant que notre école lance une collecte d'habits parce que du coup, on n'avait plus rien. Quand j'ai réalisé ce qui nous arrivait, quand j'ai réalisé que ce qui nous arrivait était vraiment réel, j'ai repensé à une leçon à l'école du dimanche à Bélinia. Jacqueline, la femme du pasteur, nous avait demandé « Si un jour ta maison prend feu ou si elle est inondée, qu'est-ce que tu prendrais immédiatement sur toi ?» Bon, je ne sais pas si mes frères ils s'en souviennent, mais moi, j'ai directement repensé à ça. Bon, normalement, tout le monde est censé répondre « ma Bible ». Bon, moi, ça a été le cas aussi. Finalement, j'ai bien pris ma Bible, mes écouteurs, un cahier de maths qui traînait, mais qui était tout noir, plein de suie, et mon argent. J'étais pas folle non plus. Avec du recul, maintenant, on se dit que ça a été une bonne chose d'avoir vécu cette épreuve. Comme dans quelques années, on se dira que la période que l'on vit actuellement a eu du positif. Car Dieu fait les choses justes et rien n'est fait au hasard. Le deuxième événement, ça a été notre voyage à Madagascar en août 2018. Ce voyage m'a permis pour la première fois de m'éloigner si seule, loin de ma famille. Et si j'étais un peu apeurée au début par le projet, j'ai trouvé une force extraordinaire d'être entourée par ce groupe d'amis qui a pris grand soin de moi. J'ai découvert chacun avec ce qu'il est. Nous avons vécu une expérience communautaire remplie d'amour et Dieu me l'a bien montré. La paix et l'amour régnaient et j'ai compris combien il était présent au milieu de nous. Avec mes deux acolytes, on a vraiment tissé une relation déjà entre nous, mais aussi avec Fifi, notre traducteur avec qui on est souvent en contact. De voir comment les gens là-bas, et notamment les jeunes, louaient Dieu tout en simplicité, c'était vraiment magique et encourageant pour nous tous. Oui, ce qui était vraiment marquant, c'était la simplicité. Il n'y avait rien de surfait. Pas de règles strictes à respecter, c'était vraiment naturel. Et c'est comme ça qu'on doit vivre les choses avec Dieu, pas besoin de haute technologie, de grands discours, de protocoles, mais juste d'avoir des cœurs purs, d'avoir soif de lui. Aussi, m'occuper des enfants et des autres si démunis, bon là on pouvait pas faire pire, sans rien mais avec des cœurs immenses, m'encourage à vouloir m'orienter comme médecin si c'est la volonté de Dieu pour moi. Si c'est pas le cas, je ne pourrais que m'y soumettre et je sais que c'est ce qui aura de meilleur pour moi. Bon, d'un côté, j'aurais perdu quelque chose qui me tenait très à cœur, mais d'un autre côté, j'aurais gagné la vie éternelle, donc j'accepte volontiers mon sort. Merci d'ailleurs pour toutes vos prières pour jeudi dernier, ça m'a fait chaud au cœur de savoir que j'avais plein de supporters, comme disait Elisabeth. J'espère juste de ne pas avoir à décevoir mon équipe. Bientôt fini. Donc, à notre arrivée en France, l'histoire du baptême me trottait dans la tête encore plus, même si j'y pensais depuis longtemps. Moi, je ne sais pas ce qui me freinait à sauter le pas, parce que, bon, il faut savoir que j'ai un bac plus 8 en procrastinage, donc prendre des décisions, ce n'est pas trop mon domaine. Le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne avec les valeurs qui vont avec, je me suis toujours sentie chrétienne, mais j'attendais d'avoir un élément déclencheur qui me dise « Ouais, ok, bah, c'est maintenant ». Sauf qu'avec moi, ça n'a pas marché comme ça. Bah, c'est une succession de petites choses. Donc déjà, ces deux événements, le rassemblement de jeunes de The Rencontre à la Porte Ouverte, avec qui enfin, Noé est venu avec moi et avec des amis du Nord. Les nombreux baptêmes de Pauline, Louise, la famille Guyot, Timothée, Yann, Valentin et de Bertrand. C'était des moments forts. Aussi, les moments avec le groupe de jeunes, les week-ends d'église, Agapé, même si j'y allais pas souvent. Enfin bref, plein de petites choses qui cumulées en font des grandes. Le baptême de Bertrand nous a beaucoup touchés avec Valentin et ça m'a vraiment mis une claque en me disant « Bah, t'attends quoi toi en fait ?» Et c'est voilà. Et c'est vrai aussi que mes études sont un peu un challenge pour moi. Il y a plus de bas que de haut, hein. Mais je m'accroche à Dieu et je fais mon maximum et je le laisse faire toutes choses car je sais qu'elles seront bonnes pour moi. J'ai hâte de savoir enfin où Dieu veut m'emmener. Et voilà, en cours, je me disais aussi souvent, regarde le corps humain, enfin le fonctionnement de chaque organe, même d'une cellule. Enfin, ça m'a bien pris la tête. Mais c'est impossible que ça soit l'œuvre du hasard. C'est l'œuvre de Dieu, c'est tout. Et je comprenais pas, enfin, que les profs fassent pas une petite parenthèse en disant, mais c'est. Enfin, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est incroyable. Enfin, bref. Donc voilà, je veux suivre Jésus et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Estelle et Hadz avaient parlé de ça en décrivant le fait de donner sa vie à Dieu comme se créer en fait un compte RD, un compte royaume de Dieu. Ça m'avait marqué, donc du coup je vous le dis. J'ai conscience que ma vie ne va pas devenir toute rose, mais après mon baptême, mais j'ai envie qu'elle soit transformée. Voilà. Ouais, fini. Et je voulais vous partager pour finir un verset que j'aime beaucoup et qui me remonte le moral. C'est dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent. Il marche en avant et ne s'épuise pas. À chaque fois que je lis, j'ai l'impression d'être un petit soldat de Dieu pour affronter la vie. Voilà.
Que Célia se sèche et se rhabille. Juste un petit mot sur lequel je voudrais insister. Vous avez entendu cette parole de l'eunuque éthiopien, le haut fonctionnaire éthiopien. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Pouvez-vous trouver une raison, je parle bien sûr à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, pouvez-vous trouver une raison qui vous empêche d'être baptisé? Alors pensez-y bien. S'engager pour le Seigneur, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau sur cette terre que nous puissions faire que de prendre cette décision. Je m'engage pour Christ. Comme dirait notre président, quoi qu'il en coûte. Je vous assure que prendre parti pour Christ sur cette terre qui, globalement, lui est hostile, qui est une terre de péché, c'est vraiment un acte extrêmement important que je vous engage tous à faire dès que possible.
Chère Célia, un petit mot pour toi. J'ai été très touchée que tu me demandes d'être à tes côtés pour ton baptême. Oui, nous avons notre forme de complicité. Arrivée en 2012 avec ta famille, je t'ai vue un peu grandir de pré-pré-ado, pré-ado, ado, adulte étudiante. J'ai beaucoup aimé, et toujours encore, tes qualités. Franche, directe, enthousiaste, bosseuse, aimante, tournée vers l'autre, toujours prête à aider. Tu as aussi la touche de féminité et la petite sœur. Chacune, toi et moi, étant entourées plutôt de garçons, À cette époque, notre fille aînée était déjà au loin. De plus, nous avons une ressemblance que j'ai découverte récemment. Nous ne pouvons ni l'une ni l'autre dire « Je me suis convertie à tel moment ». À la fois solide et fragile, tu avances avec le Seigneur et c'est une grâce. Ayant 40 ans de plus que toi et un petit peu d'expérience, je souhaite t'encourager. Te dire qu'avec le Seigneur, nous sommes toujours en route. La perfection, elle n'existe pas. L'important est que tu sois à ta place, tel que tu es, là où Dieu te veut. Tu le sais, tu peux lui parler, tout lui dire, le questionner. Avance, un pas après l'autre. Je me suis trompée. Avance un pas après l'autre. Il est là et il veille. Je ne suis pas un modèle, mais profite de ta jeunesse pour lire la parole de Dieu, durant toute ta vie aussi. Mais dans la jeunesse, il y a cette fraîcheur, cette force et cette mémorisation incroyable. Et s'il y a des jours où tu n'y arrives pas, surtout ne culpabilise pas. N'hésite pas à faire appel à une personne de confiance, à demander de l'aide extérieure. Et pour la prière, c'est la même chose. Tu es réconcilié avec Dieu. Jésus a fait un pas vers toi et toi vers lui. Il a soufflé son esprit sur toi, comme aux disciples. Tu crois au Fils, alors tu as l'espérance de la vie éternelle. Tout ça, tu le trouves dans l'évangile de Jean. Père, Fils et Saint-Esprit, il est tout en un. Et ce tout est amour. Et cet amour est en toi, avec toi. Là, j'ai un peu transformé un verset dans Matthieu 5, 13, qui serait en toute modestie comme un petit message d'envoi. Célia, tu es fleur de sel de la terre. Et la fleur de sel n'est pas faite pour rester dans la salière. Alors je te souhaite de continuer à fleurir, de t'appuyer sur l'Éternel qui renouvelle tes forces. Et je te redis ton verset. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40, 31. Et maintenant, je souhaite prier pour Célia. Et après, vous pourrez aussi tous prier pour elle. Seigneur, reçois d'abord toute ma reconnaissance et ma joie pour ma louange et ma louange pour ce moment marquant que Célia a accompli au travers de son baptême. Seigneur Jésus, tu intercèdes et prie pour nous auprès du Père. C'est une certitude écrite dans ta parole. Alors, je te présente. Je t'apporte, je te confie, Célia, comme une perle précieuse dans un écrin. Je te demande de continuer à conduire Célia dans les projets que tu as pour elle. Maintiens en elle sa soif de toi et de te connaître toujours plus, tout en restant humble. Je te demande de lui donner sagesse et persévérance. Révèle-toi toujours plus à elle. Tu la couvres de ton amour. Illumine Célia au travers de la lecture de ta parole pour comprendre toujours plus qui tu es. En m'inspirant de la parole de Paul dans Éphésiens chapitre 1, je prie pour que Célia goûte à cette puissance qui est en toi et que tu donnes par la force de ta résurrection. Merci Seigneur, parce que par toi Célia est réconciliée avec Dieu. Merci Seigneur, parce que au vu des pas qu'elle fait avec toi, ton esprit est en elle. L'avenir de Célia est entre tes mains, tu bénis. Seigneur, à toi toute la gloire, l'honneur et la souveraineté. Amen.